Coup d'œil techno sur le service d'adaptation de l'information, un média substitut de l'Institut Nazareth et Louis Braille. On joint Yves, Monsieur Séguin, qui est sous les contrées chaudes, mais nuageuses, semble-t-il.
En fait, ça a été nuageux pour quelques jours cette semaine, même ce matin, mais là, le soleil fait des percées intéressantes, dirons-nous.
Ben, on vous le souhaite, tant qu'à être là, là.
Ben, tant qu'à être là, oui.
Ben oui, ben oui. Vous avez rencontré Marc Saint-Onge pour nous?
Oui, j'ai rencontré Marc Saint-Onge, une personne très intéressante qui avait beaucoup à dire sur, comme vous l'avez dit, l'adaptation de l'information en médias substituts. On sait que si on remonte à plus de 50 ans, les médias substituts, ça se résumait au braille. Après ça, il y a eu les livres sur des disques 16 tours. Je ne sais pas si Gérald Deluxe, ça vous dit quelque chose.
J'ai déjà écouté des livres sur disques 16 tours.
On était ça nous rajeunit pas.
On était loin de la qualité CD.
J'imagine.
Tout à fait. Tout à fait. Mais évidemment, il y a eu beaucoup d'avancées dans le domaine technologique, comme on le sait. Et Marc nous a brossé un tableau, en fait, des différentes techniques, des différentes technologies qui sont employées pour la production de l'information en médias substituts. Alors, je pense que ça va être intéressant de faire un survol sur toutes ces technologies-là et ces façons de rendre l'information le plus accessible possible à la clientèle des personnes vivant avec un handicap visuel.
Et d'ailleurs, il commence en nous expliquant quelque chose dont j'ignorais, tridimensionnel. Je n'ai même pas le mot.
La modulation tridimensionnelle.
Alors,
oui. Même Marc s'est enfargé un peu au début en le disant, avec raison, mais son explication était quand même intéressante et claire.
Oui, c'est ça. On a choisi de bien le faire paraître, alors ça ne paraîtra pas que c'est enfargé. Merci beaucoup, Yves. On écoute cette rencontre qui dure 13 minutes 38.
C'est parfait. Un nouveau procédé sur lequel on travaille. En réalité, il s'agit, dans un premier temps, de concevoir un dessin à l'aide d'un logiciel informatique qui permet de concevoir des formes 3D. Par la suite, ces formes 3D-là sont envoyées sur une imprimante tridimensionnelle. Cette imprimante-là fonctionne à la base avec des bobines de plastique qui sont fondues à l'intérieur de l'imprimante pour former des formes telles que dessinées, pour avoir vraiment l'aperçu 3D de la forme qui a été dessinée à l'informatique auparavant.
Est-ce que c'est une technologie qui est relativement nouvelle? Et peut-être pourriez-vous nous parler un petit peu des applications ou des environnements dans lesquels ce genre de technologie-là peut être utilisé?
C'est une technologie qui n'est pas nécessairement nouvelle. Par contre, le fait qu'elle soit abordable pour qu'on puisse l'exploiter, ça, c'est relativement nouveau. C'était des équipements qui, jusqu'à récemment, étaient réservés à des grandes entreprises industrielles. Et maintenant, bon, il y a des modèles d'imprimantes tridimensionnelles qui sont disponibles pour le grand public, un peu comme l'appareil qu'on vient de se procurer aux médias substituts à l'Institut Nazareth et Louis Braille. Et le champ d'exploitation, il est encore, je vous dirais, un peu à déterminer, étant donné que c'est un équipement qui est relativement nouveau. Dans le cadre de la présentation, aujourd'hui, on a présenté un dé à 20 faces sur lequel il y avait des chiffres de 1 à 20 inscrits sur chaque face. On est à la recherche de projets qu'on pourra concevoir avec ça. Quelqu'un nous a récemment suggéré un casse-tête, par exemple, hein, les casse-têtes qui sont en vente dans les magasins de jouets pour les enfants. Malheureusement, c'est des surfaces lisses qui ne sont pas du tout accessibles. Donc, peut-être qu'un de nos premiers projets avec cet équipement-là sera de concevoir un casse-tête avec des formes tridimensionnelles qui sera accessible à la population limitée visuellement.
Peut-être qu'on peut maintenant toucher un mot des autres technologies. Vous avez mentionné le braille. Évidemment, le braille, au tout début, on le connaissait sous sa forme papier et on utilisait, pour les plus vieux d'entre nous, des réglettes tablettes avec poinçons. Évidemment, les technologies ont beaucoup évolué. Le braille sur papier existe toujours, bien sûr, mais on peut aussi produire du braille qui est lu sur des plages tactiles électroniques. Alors, il y a eu effectivement beaucoup d'évolutions au cours des années. Alors, peut-être pourriez-vous nous faire un petit bilan de tout ça chronologiquement, disons?
Comme vous le dites, le braille papier est toujours omniprésent dans le quotidien des personnes qui ont un handicap visuel et qui sont lecteurs de braille. Dans certaines situations, on ne s'en sort pas. Par exemple, le braille scientifique, une personne qui étudie dans un domaine scientifique et qui est complètement non-voyante, un de ses seuls moyens pour avoir accès à l'information, c'est le braille. Écrire, par exemple, des formules mathématiques complexes à l'ordinateur, c'est encore compliqué au niveau synthèse vocale et afficheur braille. Alors, le braille papier a toujours sa place. On produit, bon an, mal an, au service d'adaptation de l'information en médias substituts de l'Institut, environ 1 million de pages braille par année. Ce qui est quand même considérable. Au moins 10 à 15 000 pages par mois sont consacrées aux livres de bibliothèque, que ce soit des romans, des biographies, etc. On produit également aussi des revues braille, que ce soit le Carrefour qui est en braille abrégé ou le Nouveau Départ qui est en braille intégral. Ça, c'est quelque chose qui est toujours produit en braille. Par contre, le braille a su aussi évolué avec les années. Il y a, sous les formes tactiles, il n'y a pas seulement le braille, mais aussi le dessin en relief. On a des imprimantes qui nous permettent, qui sont faites par la compagnie VioPlus, qui nous permettent d'embosser directement sur papier des dessins qui, eux aussi, ont été dessinés à l'ordinateur préalablement avec une légende. Donc, on peut imprimer avec ça. Ça peut être des cartes géographiques, ça peut être des plans d'école, des figures mathématiques, des figures géométriques, des parties du corps humain. On a produit l'atlas anatomique en braille et format de dessin à format tactile récemment aussi. Donc, les possibilités du braille sont omniprésentes. On fait beaucoup avec la législation qui est en vigueur maintenant sur l'accessibilité universelle, de la signalisation, par exemple, pour des ascenseurs, des numéros de locaux, des numéros de classe dans des écoles ou universités. Donc, la signalisation, c'est un aspect aussi que le braille, pour lequel le braille est très important.
Et la production du braille sur papier a évolué au fur et à mesure des années. Est-ce que pour une production de masse, par exemple, comme quand vous parlez des revues qui sont produites, est-ce que les procédés maintenant vous permettent de produire ces ouvrages-là plus rapidement qu'auparavant?
Tout à fait. Si on remonte à il y a moins d'un an, on avait encore au service à IMS ce qu'on appelle une presse braille. Dans un premier temps, les pages, par exemple, de nos revues étaient embossées sur des plaques métalliques, des plaques de zinc. Oui. Et ils étaient insérés dans ce qu'on appelait une presse braille, dans laquelle on insérait feuille à feuille pour produire les revues. C'est un équipement qui fonctionnait bien, par contre, qui représentait son lot de risques. Hein, il faut savoir que la presse braille, quand ça presse, il y a à peu près 1 tonne de pression à une certaine vitesse. Donc, ça peut représenter un certain risque pour les gens qui ont à la manipuler. Grâce à l'intervention de la Fondation de l'Institut Nazareth et Louis Braille, en décembre dernier, on a pu se procurer une imprimante braille qu'on appelle la Brello 650. C'est un appareil de production braille industrielle qui a une valeur approximative de 150 000 $ qui fonctionne avec des rouleaux de papier braille. C'est des immenses rouleaux qui doivent peser entre 300 et 400 livres chacun sur lesquels on peut embosser directement le contenu des revues braille et c'est en mesure de couper selon le format qui a été prédéterminé. Donc, il y a beaucoup de travaux qui se font de façon automatique maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a moins d'un an. Et ça se fait aussi de façon beaucoup plus sécuritaire qu'auparavant.
D'accord. Alors, c'est un coût initial assez élevé pour l'appareil, mais qui va sans doute valoir son pesant d'or au fur et à mesure des années, ne serait-ce que pour faciliter et amoindrir les risques de blessures, même au niveau de la manipulation, comme vous le disiez. Alors, je pense que ça fait un petit peu le tour du côté braille. Maintenant, vous avez mentionné tantôt aussi la production de documents en gros caractères pour les gens qui ont une perte visuelle, mais suffisamment de vision pour pouvoir lire. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce secteur-là d'activité?
Au niveau du gros caractère, il y a deux procédés qui sont majoritairement utilisés. Dans un premier temps, il y a la photocopie traditionnelle agrandie, qui existait il y a plusieurs années et qui continue d'être demandée fréquemment. Mais il y a aussi l'adaptation dans des documents électroniques en utilisant des polices de plus grand format avec des plus grandes tailles, avec des espacements appropriés. Donc, la reproduction ou la remodulation de données dans des documents électroniques pour les rendre accessibles avec des formats qui sont plus malléables avec le gros caractère, ça, on en fait de plus en plus. Ce qu'on fait aussi, c'est agrandir des dessins ou des graphiques. Ça représente un certain défi en soi, parce que lorsqu'on procède à des agrandissements, des fois, ça peut avoir des impacts sur le contraste. Et nous, notre équipe à l'AIMS s'assure des fois de refaire le dessin complètement à l'échelle pour offrir un contraste là, qui soit optimal pour le degré de vision de la personne qui va avoir à l'utiliser dans le cadre des fois de ses études, de ses loisirs ou de son travail.
Que ce soit pour les produits en gros caractère ou pour les produits braille et même de synthèse vocale, vous offrez ce genre de service-là à des organismes qui veulent rendre leurs produits accessibles à cette clientèle et vous l'utilisez pour vos propres besoins internes comme la production des revues dont on parlait tantôt et des livres. Est-ce qu'on peut résumer ça de cette façon-là?
Notre clientèle est assez diversifiée. On produit des documents qui sont à diffuser par des organismes gouvernementaux et paragouvernementaux. On produit aussi énormément de documents pour des étudiants de niveau secondaire, un peu collégial, beaucoup universitaire. On produit énormément de documents en braille aussi pour Bibliothèque et Archives nationales avec le SQLA. Ça, ce sont beaucoup de nos clients principaux. À l'interne, c'est sûr qu'on a beaucoup de production, ne serait-ce que les documents en braille pour le conseil d'administration, pour les membres qui ont un handicap visuel, les publications internes qui sont diffusées aux usagers de l'INLB et justement les revues qui sont disponibles pour la population qui sont lecteurs de braille, qui ne sont pas nécessairement des usagers de l'Institut parce que les revues qu'on publie, on a des abonnés jusqu'en Europe, on a même jusqu'en Algérie, donc on fait beaucoup de production pour la francophonie en général, oui.
Peut-être qu'en terminant, on pourrait toucher un mot de la production de documents audio. Je pense que vous avez mentionné par synthèse vocale essentiellement. C'est de cette technologie-là dont vous vous servez pour produire les documents audio?
On ne se le cachera pas. La production de documents en format électronique est de plus en plus demandée par les utilisateurs, ne serait-ce que pour l'aisance de transport des documents électroniques. C'est un format qui devient de plus en plus populaire. Et on a mis sur pied à l'AIMS depuis environ un an et demi, deux ans, la production de documents en format DAISY. Contrairement aux autres producteurs, on ne travaille pas en cabine avec des personnes lecteurs ou lectrices. On travaille avec un logiciel qui permet de convertir le texte en format audio numérique avec une voix de synthèse vocale. Un des grands avantages de ce format-là, c'est que c'est un format qu'on pourrait appeler multimodal, en ce sens que quelqu'un commande par exemple un document, on fait l'adaptation, il va être disponible en audio, il va y avoir sur le CD ou sur dans le fichier qu'on va lui envoyer une version textuelle en format HTML. Et comme c'est un format DAISY plein texte ou full text, comme disent les anglophones, avec un logiciel de lecture DAISY sur ordinateur, il va y avoir le texte qui va être souligné au fur et à mesure que la lecture audio se fait. Donc, on peut viser aussi la clientèle qui a des différents troubles cognitifs avec ce produit-là également.
D'accord. Et peut-être qu'en terminant, parce que je sais que le temps nous manque un petit peu, mais on pourrait peut-être toucher un mot des documents PDF. Ça a été une pomme de discorde, je vous dirais, pendant plusieurs années, parce que ce genre de document-là était difficile, voire même impossible à être consulté par les personnes handicapées visuelles. Cependant, il y a eu beaucoup de progrès dans ce domaine-là. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot?
Nous, à l'AIMS, on produit deux types de documents PDF accessibles. Dans un premier temps, on a le PDF accessible régulier, c'est-à-dire celui qui conserve la facture visuelle originale du document. En d'autres mots, on travaille à la source du code du document pour y insérer des textes de remplacement pour qu'au fur et à mesure, l'utilisateur qui a un handicap visuel puisse lire dans un format qui lui est accessible l'information qui est contenue dans ce document-là. Il y a aussi le format de rechange PDF accessible. En d'autres mots, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un document électronique un peu comme le e-text, un document dans lequel on a réorganisé l'information. La facture visuelle n'est pas conservée. Par contre, le document est pleinement accessible à une personne qui a une limitation visuelle, peu importe le moyen de lecture qu'il utilise. Donc, la facture visuelle n'est pas conservée. Par contre, ce deuxième moyen de procéder est beaucoup moins coûteux et encore plus accessible pour une personne qui a une limitation visuelle, parce que même un PDF régulier rendu accessible peut représenter un certain degré de difficulté de consultation pour quelqu'un qui utilise des technologies adaptées, notamment au niveau de la lecture braille. Des fois, on a des petites surprises, il y a beaucoup de coupures, les lignes ne sont pas de la longueur qu'on voudrait. Donc, le PDF, oui, c'est possible de le rendre accessible, mais c'est un format qui demande beaucoup de travail et qui est quand même complexe à manipuler.
C'est ce que j'allais dire. Il y a beaucoup de manipulations pour rendre le document le plus accessible possible. Bien, écoutez, Marc Saint-Onge, je pense qu'on a fait pas mal le tour de toutes les disciplines ou tous les domaines dans lesquels la section des médias substituts est impliquée. Alors, je vous remercie beaucoup de votre temps. Je pense que ça a été instructif pour les auditeurs à l'écoute. Alors, merci de votre participation aujourd'hui.
C'est un plaisir.
Et merci à Yves Séguin qui a rencontré Marc Saint-Onge pour nous. D'ailleurs, si vous avez des commentaires, des demandes d'exploration pour Yves, moi j'en ai une, on causait, Gérald et moi, tiens, peut-être de jeux adaptés pour personnes aveugles. On parle de jeux vidéo et tout, là, ben, ce serait sympathique, surtout qu'on sait que ça existe. Alors...
un peu.
Oui, oui, mais ça, on passera le message. Coup d'œil techno@videotron.ca pour joindre monsieur.